9h, 10h, c'est arrivé demain.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous, il se passe quelque chose en Algérie. Un début de rébellion contre le pouvoir avec des milliers de citoyens dans la rue pour dire non au cinquième mandat de Bouteflika. Une mobilisation massive et spontanée, inédite depuis 20 ans. Les autorités sont restées passives alors que Bouteflika est attendu en Suisse. Aujourd'hui, il vient à Genève pour se faire soigner. Avec nous dans un instant, le journaliste Mohamed Sifaoui qui vient de publier « Où va l'Algérie ?». Au générique également, un grand écrivain, Jean-Paul Kaufmann, à nouveau à la poursuite d'un souvenir et qui, pour le trouver, parvient à forcer les portes des églises fermées de Venise. Une quête fascinante qui le ramène à ses années de détention au Liban. Venise, à double tour, son nouveau livre. Jean-Paul Kaufmann nous en parle peu après 9h30. Et puis du cinéma, avec un jeune acteur qui multiplie les premiers rôles. François Civil, déjà à l'affiche du Chant du Loup, donne la réplique à Juliette Binoche dans « Celle que vous croyez ». Mercredi prochain sur les écrans. Mais d'abord.
Good morning, it's great to stay up late. Good morning to you.
Ce Good Morning, chanté par Debbie Reynolds, Jen Kelly et Donald O'Connor dans Chantons sous la pluie, était aussi celui de Stanley Donen, son réalisateur qui vient de mourir à 94 ans. C'est le dernier témoin, la dernière figure de l'âge d'or d'Hollywood qui disparaît juste avant les Oscars. Avant de faire grimper Jen Kelly au lampadaire, Donen avait fait danser Fred Astaire, son idole, sur le plafond et les murs de mariage royal. Il va donner aussi 3 beaux écrins à Audrey Hepburn dans Drôle de frimousse. Funny Face avec Astaire, dans Voyage à deux avec Albert Finet et dans Charade avec Cary Grant, le décor de Paris et la musique de Mancini. Il y a 20 ans, en recevant un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, Stanley Donen expliquait que les mots étaient inadaptés et il choisissait de répondre à cet hommage en danse et en chanson.
Tonight, words seem inadequate. In musicals, that's when we do a song. So, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Stanley Donen qui faisait des claquettes devant les stars d'Hollywood à 73 ans avec la statuette des Oscars contre la joue. Bonjour Bertrand Tavernier.
Bonjour, bonjour.
Vous lui avez consacré 3 entretiens pour votre livre « Ami américain » Stanley Donen. Mais avant de parler de lui, ses films, tant de chefs-d'œuvre, et si jeune quand il fait « Chantons sous la pluie », il n'a que 28 ans.
Oui, et déjà une carrière de danseur, mais surtout de chorégraphe, oui. déjà associé avec Gene Kelly. Ils inventent, dans un film qui s'appelle Cover Girl, une danse de Kelly avec son double.
Oui.
Ils arrivent à inventer quelque chose. Ils ont révolutionné, d'abord avec l'aide de Gene Kelly, qui a été son double. Ils ont révolutionné la comédie musicale. C'est Donen et Kelly, d'une façon tout à fait différente de Minnelli. Ils ont fait danser les gens, chanter les gens dans les rues.
En extérieur, oui.
Mais même si ces extérieurs étaient tournés dans les studios de la MGM, il y avait quand même l'idée que tout n'était pas sur une scène de théâtre, tout ne se passait pas. Et ensuite, dans beaucoup de films, il a en effet essayé d'innover, d'inventer, par exemple, la fameuse danse au plafond de Fred Astaire dans Mariage Royal.
Extraordinaire.
Qui faisait qu'il était contacté, je ne sais pas, par Michael Jackson pour faire un clip où il y ait ce même, où on puisse reproduire cet exploit de faire danser Astaire le long des murs, oui. et sur le plafond.
C'était une grosse boîte qui tournait en fait avec une caméra, oui, attachée, un caméraman qui était lui aussi attaché.
Et absolument. C'était, c'est l'œuvre de Christophe Colomb, mais personne n'y avait songé avant. Et en effet, il a fait chanter Audrey Hepburn, et je me souviens d'une chanson de Gershwin, chantée par Audrey Hepburn en Funny Face, « How long has this been going on ?» moi, qui m'avait tellement touché que je l'avais mise dans Autour de minuit, cette chanson, parce que c'était un peu en souvenir de la version d'Audrey Hepburn dedans. Et récemment, il y a quelques jours, je voyais un film que j'adore de lui, qui est Pique-nique en pyjama,
oui.
où toutes les chansons sont une merveille, et qui a un sujet assez original, parce que c'est sur une grève dans une usine qui fabrique des pyjamas pour avoir une augmentation de salaire. Ce qui est, Donen s'est attaqué à des sujets sérieux dans la comédie musicale.
Oui.
Il a fait, Donen et Kelly ont fait un film qui s'appelle Beau Fixe sur New York,
oui.
où c'est le retour de trois amis qui reviennent de guerre et qui, après 10 ans, oui. après s'être séparés 10 ans, constate que les liens d'amitié ne sont pas toujours aussi forts dans un monde qui est en train de changer.
Avec Sinatra, effectivement, oui.
Non.
Ah, c'est Beau Fixe, c'est bien pas Sinatra. Pardon.
Non, il y a Sinatra, c'est dans On the Town, ça, vous avez entièrement raison. C'est avec Dan Deley, Michael Kidd et Gene Kelly. Il y a une danse, il y a un numéro formidable de Gene Kelly en patin roulette dedans, dans les rues de New York, et il y a Sid Charis.
Il faut...
qu'on voyait aussi dans Chantons sous la pluie.
Dans Chantons sous la pluie. Il faut revoir les films de Donen et même les films plus tardifs. On a évoqué tout à l'heure ce voyage à deux avec Albert Finet qui vient aussi de disparaître, et Audrey Hepburn.
Oui, voyage à deux qui est un film formidable qui mélange, mais qui est un film plus grave.
Une comédie sentimentale, oui.
Oui, sur un couple qui fait le point sur ces années d'amour. Donc c'est un voyage dans le temps. C'est un scénario extrêmement subtil de Frédéric Raphaël, qui sera l'auteur du dernier film de Kubrick, Eyes Wide Shut. Et Frédéric Raphaël disait qu'il n'avait jamais eu une collaboration aussi bonne, aussi forte et aussi intelligente avec un metteur en scène qu'avec Stanley Donen, ce qui était un peu vache pour Kubrick. Mais ça montre que... c'est un film aussi... qui n'est pas simplement... La plupart des films de Donen sont des films joyeux, sont des films qui vous donnent une pêche. Là, c'était un film plus mélancolique, avec Albert Finet, qui vient aussi de mourir, et donc Audrey Hepburn. Et c'était tout à fait extraordinaire.
Merci beaucoup. Merci Bertrand Tavernier d'avoir été en ligne pour évoquer le souvenir de Stanley Donen, disparu à 94 ans.
Europe 1.
Dans un instant, l'Algérie avec des foules de manifestants qui disent non à Bouteflika et à un cinquième mandat. On en parle avec le journaliste Mohamed Sifa.
Europe 1.
De 9h à 10h, chaque dimanche, vous retrouvez Patrick Cohen avec C'est arrivé demain sur Europe 1.
Bonjour Mohamed Sifaoui.
Bonjour.
Journaliste, directeur du magazine Contre-terrorisme, vous venez de faire paraître aux éditions du CERF Où va l'Algérie ? Et c'est vraiment la question qu'on a envie de vous poser ce matin au surlendemain d'un mouvement aussi inattendu que massif des foules de manifestants dans les rues d'Alger, d'Oran, de Sétif, d'Annaba, de Tizi Ouzou, qui ont répondu à des appels sur les réseaux sociaux pour dire non à Bouteflika, non à un cinquième mandat. L'élection présidentielle est prévue le 18 avril. Ces manifestations sont les plus importantes en Algérie depuis près de 20 ans. Et le pouvoir en place, les forces de sécurité, ont laissé faire. La police est restée passive alors que toute manifestation est normalement interdite à Alger depuis 2001. Historique, comme le dit le journal El Watan ce matin, Mohamed Sifaoui.
Enfin, historique parce que on a cru longtemps que la société algérienne était totalement dévitalisée par les agissements du régime qui a verrouillé l'ensemble des espaces, à la fois politiques, médiatiques, mais également résigné par une situation de fait accomplie. Et j'ajouterais une société qui continue de vivre, en tout cas on le croit, un syndrome post-traumatique qui est le résultat de ce qu'a vécu ce pays durant la décennie 90.
10 ans de
terrorisme. 10 ans de quasi-guerre civile, en tout cas de terrorisme et de lutte antiterroriste assez féroce. Et par conséquent, on a cru que les Algériens n'allaient pas se révolter. Ce n'était pas mon point de vue parce qu'il y avait un certain nombre d'indices qui montraient qu'il y avait une colère sourde qui montait dans la société, mais pas seulement. Il y a pour la première fois depuis très longtemps une fissure réelle au sein même du régime. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que les choses sont beaucoup plus graves que ce qu'on croit, à mon sens, c'est que le régime n'est plus homogène aujourd'hui. Je pense que c'est le mandat de trop qui va faire que Bouteflika va agréger autour de lui l'ensemble de ses détracteurs à l'intérieur du système et à l'extérieur.
Quel est le ressort de cette révolte ? On parle là d'abord côté peuple. C'est le sentiment d'imposture d'un pouvoir fantôme avec à sa tête un impotent qui est incapable depuis des années, on le sait, de faire un discours, donc de parler aux Algériens, Mohamed Sifaoui.
Je vais vous donner une image qui a terriblement vexer, toucher, humilier les Algériens. Lorsque Abdelaziz Bouteflika a annoncé qu'il briguerait un cinquième mandat, dans toutes les capitales occidentales, ce ne sont pas les commentateurs, les journalistes, les éditorialistes qui ont commenté en premier cette annonce. Ce sont les humoristes, les satiristes, oui. Parce que la situation est, à juste titre, assez cocasse, risible, pathétique. Par conséquent, les Algériens, qui ont une fierté, et parfois une fierté mal placée, ont très mal pris cette situation où leur pays est devenu la risée de l'ensemble de la planète. Donc, il y a eu évidemment une réaction, mais je dirais, ce que je disais tout à l'heure, c'est cette colère sourde qui montait depuis longtemps, le mal-être économique, mal-être social, cette volonté qu'ont quasiment l'ensemble des Algériens, des plus diplômés, au moins formés, de quitter ce pays parce qu'il n'y a raisonnablement aucune perspective d'avenir.
Il y a un mouvement d'exil. Un pays très jeune, il faut le rappeler, près de
27
la moitié.
27 ans de moyenne d'âge.
45% des 42 millions d'Algériens ont moins de 25 ans, évidemment. Un président donc cloué dans un fauteuil roulant depuis un AVC en 2013, qui d'ailleurs part à Genève aujourd'hui. Alors, ce qui est inhabituel, ce n'est pas le voyage à Genève, c'est le fait que ça a été dit. Hein, il y a eu un communiqué du palais présidentiel et il fait un aller-retour en Suisse pour des examens médicaux, pour des contrôles.
Enfin, un aller-retour, personnellement, j'en sais rien. Étant donné que la présidence, contre toute logique, a annoncé il y a 4 jours que le président partait, me laisse quelque part assez, sans voix, parce que même pour des raisons sécuritaires, normalement, la présidence algérienne n'avait pas pour habitude de jouer cette transparence. Mais il y a aussi un certain nombre d'indices qui montrent que les choses ne vont pas très bien. D'abord, des agences, une agence gouvernementale qui évoque le fait que la société rejette le cinquième mandat, le fait que, ce que je vous disais, que le régime ne soit plus homogène.
Il y a des tensions internes, il y a des désaccords.
Cette passivité des services de sécurité qui laissait les gens manifester. Ce civisme, je dirais, presque inhabituel, que mes anciens compatriotes me pardonnent, mais ce civisme presque inhabituel où on a vu des gens ramasser par la suite, y compris les douilles, des bombes lacrymogènes qu'on leur a jetées pour nettoyer les rues, etc. Tout ça montrait que, d'une certaine manière, cette colère, effectivement, est populaire, mais, me semble-t-il, elle est quelque part un peu encadrée par une frange du régime.
Elle peut être encouragée par une frange du régime. Il y a un nouveau test aujourd'hui avec de nouveaux rassemblements à l'appel du mouvement Mouattana. Citoyenneté, important,
oui,
intéressant.
C'est un mouvement qui est actif depuis plusieurs années. C'est un mouvement qui réclame la démocratisation du pays. Mais je dirais, ce qui manque aujourd'hui, c'est une fusion entre l'ensemble des forces démocratiques, parce que je pense que les Algériens en sont conscients, et je le dis avec force, hors de question pour que un régime de Bouteflika, où les Algériens aient comme alternative un régime militaire ou un régime islamiste. Hors de question. Il faut que tout le monde en soit conscient. Parce que ces antagonismes, justement, le régime de Bouteflika, on a beaucoup joué. On a beaucoup joué, notamment avec l'antagonisme avec l'islam politique. Donc aujourd'hui, le seul antidote qui soit crédible, c'est une revendication de démocratisation des institutions du pays, et je dirais même une révolution culturelle. Les Algériens vivent de grandes frustrations, ils sont empêtrés dans de grands archaïsmes à la fois religieux, traditionnels, qui fait que le pays est en marche arrière constante. pas à cause du régime seulement, mais également à cause de, je dirais, certaines forces, notamment les islamistes, qui ont pris possession de l'esprit d'une partie de la société. Les mosquées continuent de jouer un rôle important et je pense que ce pays, où la jeunesse aspire à aller vivre en Occident et aspire à vivre dans des grandes démocraties, mériterait lui aussi de vivre ou de construire sa propre démocratie.
Mohamed Sifaoui, on va surveiller... évidemment, la situation, et puis vous pourrez revenir nous parler de ce livre,
Merci
Où
beaucoup.
Va l'Algérie et les conséquences pour la France, aux éditions du CERF. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, deux invités. D'abord, les élections européennes, bientôt. Bernard Spitz, qui dirige la diplomatie du patronat français, publie Merci l'Europe, une riposte aux 7 mensonges populistes. Et puis l'écrivain Jean-Paul Kaufmann pour son nouveau livre Venise à double tour.
Europe 1. C'est arrivé demain. Continue avec vous, Patrick Cohen.
Bonjour Bernard Spitz.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous avez été conseiller de Michel Rocard. Aujourd'hui, vous présidez la Fédération française de l'assurance et aussi la Commission Europe et internationale du MEDEF. Vous publiez chez Grasset « Merci l'Europe », riposte aux 7 mensonges populistes. L'Europe est une passoire, l'euro nous plombe, l'Europe est le pigeon de la mondialisation, etc. Mais quand on ouvre votre livre, d'abord on se dit « mais il est euro-béa ». Il n'y a rien à changer en Europe ? Il n'y a rien à améliorer ?
Bien sûr que si. Bien sûr que si. Il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses à changer, mais parce que précisément, on a besoin de l'Europe. Non seulement pour tout ce qu'elle nous a apporté, et on pourra peut-être en parler quand on voit tout ce que les Anglais aujourd'hui réalisent avec le Brexit qui va leur échapper, qui va leur tomber des mains, ils ne pourront plus circuler, ils ne pourront plus avoir confiance dans les produits, les médicaments, ce qu'ils mangent. Mais fondamentalement, quand on regarde l'avenir, le monde, dans quel monde vivons-nous, Patrick Cohen ? On vit dans un monde dans lequel l'affirmation de la puissance, la Chine, les États-Unis, quel pays européen peut seul résister à ça ? Ça n'est qu'unique qu'on peut résister et maintenir et le niveau de vie et l'art de vivre et les valeurs que nous, Européens, partageons. Donc c'est une obligation et pour ça, oui, il faut changer beaucoup de choses. Mais il ne faut pas cracher sur l'Europe, ni être béat, ni être naïf, être volontaire et se dire on a besoin de l'Europe pour vivre dans le monde de demain.
Mais vous voyez à quel point ce discours qui a pu paraître béat a fini par exaspérer les peuples, au point de conduire d'ailleurs au Brexit. Vous venez d'y faire allusion. Vous avez compris pourquoi les Britanniques, à un moment, ont pu avoir la pulsion de dire non majoritairement ?
Écoutez, oui. Sans vouloir être présomptueux, on avait été en Angleterre avec le MEDEF quelques mois avant le vote. Et on en était revenu complètement effrayé en se disant « ces gens ne comprennent pas ce qui se passe ». Il y a une minorité de gens qui vivent dans le déni, qui ne voient pas qu'autour d'eux, alors en France on appelle ça la France périphérique, mais c'est déjà une rupture au sein de la société anglaise entre ceux qui avaient le sentiment d'être non seulement abandonnés, trappés, laissés dans leur environnement, sans ascenseur social, et qui avaient le sentiment de ne pas du tout être écoutés, non seulement pas pris en compte, mais même pas écoutés. Et donc ces gens-là, ils étaient furieux. On leur a offert un bulletin de vote, ils l'ont marqué. Alors ça a pris d'autres formes. En Italie, ça a été Cinque Stelle. En France, c'est les Gilets jaunes. C'est un phénomène général. Mais bien évidemment, ça ne veut pas dire... c'est pas un problème contre l'Europe. C'est que l'Europe ne répond pas aux peurs des gens. Aujourd'hui, le monde change. Il y a le sentiment de déclassement. Il y a une mondialisation qui renforce le sentiment d'inégalité. Il y a les nouvelles technologies. Les gens ont le sentiment qu'ils vont être dépassés par ça. Il y a des peurs sur l'environnement, sur le climat. Donc, qui vous protège ? Et est-ce que l'Europe nous protège ? La vérité, c'est que oui, mais comme personne ne porte ce message, les gens ont tendance à vouloir se réfugier sur ce qui est plus proche d'eux et ça permet évidemment la montée d'une forme de nationalisme extraordinairement dangereux pour l'Europe. S'il n'y a pas quelqu'un pour incarner l'Europe, vous savez, Kissinger avait l'habitude de dire « l'Europe, quel numéro de téléphone ?» hein ? Ben aujourd'hui, plus personne ne se demande le numéro de téléphone parce que l'Europe n'existe pas comme puissance. Donc, elle existe sur les faits. On est 500 millions, on est la première puissance commerciale mondiale. Personne ne peut exister dans le monde sans nous. Mais on n'a pas le poids qui correspond et le soutien politique qui correspond à cette puissance-là.
Pour avoir ce poids, cette structure, cette représentation, ça suppose donc un changement des structures européennes et de nouvelles délégations de souveraineté. Ça veut dire qu'on délègue, la France déléguerait le pouvoir à une puissance fédérale ou,
non,
ou supranationale.
Non. D'abord, on peut parler de confédération et il n'y a pas besoin d'aller chercher des mécaniques fédérales. C'est ça aussi le problème. Les Européens n'ont pas voulu, n'ont pas donné tous les moyens à l'Europe pour exister. Donc, il faut arriver à le faire. Et puis, pour ça, il faut aussi une volonté des peuples. Vous voyez, la semaine prochaine, on va recevoir, tout le patronat italien et français vont se voir. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des difficultés politiques entre qui tiennent aux circonstances. Mais les deux patronats seront là avec, d'ailleurs, les gouvernants pour montrer que ce qui unit les Français et les Italiens est plus fort que le discours politique qu'on peut entendre ici ou là. Et donc, c'est avec les Français, les Italiens, les Allemands qu'on peut reconstituer avec le noyau de base de ce qui a été l'Union européenne et redonner envie d'Europe aux Européens.
Oui, mais ça, c'est aussi ce que disent certains populistes, et notamment Marine Le Pen, qui dit on n'a pas besoin de l'Europe et de la structure européenne pour avoir des coopérations bilatérales. On n'a pas eu besoin de la super structure européenne pour faire Airbus ou pour faire les programmes pour les étudiants. On peut très bien s'arranger entre pays et avoir des bonnes relations au sein du continent européen.
Oui, ça, c'est pas Marine Le Pen qui dit ça. C'était déjà les Anglais qui disaient c'est pas la peine de faire l'Europe, il suffit de faire une grande union commerciale, etc. Oui, mais ça, c'est pas une volonté politique. Ça, c'est faire du business. C'est bien, c'est pas suffisant. C'est pas comme ça qu'on va exister au niveau mondial.
Mais c'est l'exemple que vous venez de donner avec la France et l'Italie.
Non, parce qu'on est aujourd'hui poussé un peu dans nos retranchements. Mais ce qu'il faut montrer, c'est qu'il y a des liens extraordinairement solides. Mais entre la France et l'Italie, on a des projets effectivement industriels qui sont au niveau européen. Et vous parlez d'Airbus, les Italiens, ils ont d'Airbus.
Bon, qui va redonner goût à l'Europe, aux citoyens français? Bernard Spitz, vous avez une idée? Une traduction politique, une incarnation?
La campagne des Européennes qui arrive va être clé, parce qu'on est en 2019 à un moment dont on sent bien qu'il est un moment charnière. Donc il est essentiel que cette campagne puisse se dérouler sur les bons sujets et défendre les vraies valeurs qui sont les valeurs européennes et que ça soit le cas dans tous les pays. Après, ça va être encore une fois une question de leadership politique. Est-ce qu'on continue comme ça à laisser voguer les choses? Est-ce qu'on laisse la bureaucratie gérer l'Europe ou est-ce que le pouvoir politique reprend le dessus? Je crois que c'est un moment politique pour l'Europe. Les ennuis de l'Europe, ils viennent de la politique. Le Brexit, c'est de la politique. Ce qui se passe en Italie, c'est de la politique. Et donc, la politique a créé le problème. C'est à la politique d'apporter les solutions. On ne peut pas s'en remettre à la Commission et à dire elle va réparer les choses. Non, elle n'en a pas les pouvoirs, elle n'en a pas la légitimité non plus.
Eh bien, nous voilà de plein pied dans la campagne et dans les élections européennes. Merci, l'Europe riposte aux 7 mensonges populistes. Bernard Spitz, chez Grasset, merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
Europe 1. Et jusqu'à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée demain.
Bonjour Jean-Paul Kaufmann.
Bonjour.
Après nous avoir fait découvrir des lieux mystérieux ou méconnus, Sainte-Hélène, dans la chambre noire de Longwood, ou l'Arche des Kerguelen, vous nous emmenez dans l'une des villes les plus visitées, 20 à 25 millions de touristes par an, les plus racontées, Venise. Vous le dites vous-même, la ville au monde sur laquelle on a le plus écrit, ou tenté d'écrire comme Stendhal, qui n'y arrive pas très bien. Vous êtes téméraire ou présomptueux?
Inconscient.
Inconscient.
Oui, écoutez, il y a le fameux mot de Morand. Les canaux de Venise sont noirs comme de l'encre. Et cette encre, eh bien, c'est tous ceux qui ont écrit sur Venise. Et d'ailleurs, Morand ajoute, c'est un devoir d'y tremper sa plume. Mais c'est quand même un exercice difficile et je dirais casse-gueule. Et j'ai hésité longtemps avant d'écrire. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire aussi? Moi, je vais ajouter mes propres bêtises à celles qui ont été écrites jusqu'alors. Pour moi, ça a été une longue hésitation.
Et ce Disneyland touristique, comme vous l'appelez, il vous dérange pas? Au contraire, vous écrivez qu'il ne départ pas Venise, il la rehausse. Pourquoi?
C'est ça le miracle de Venise. C'est vraiment la caricature du tourisme mondialisé. Vous avez l'hégémonie marchande, tout ce cauchemar babélien, 30 millions de touristes par an, et une population qui rétrécit, 54 000, 53 000, etc. Donc, comment une ville qui est très petite arrive à supporter cet afflux? Et c'est ça aussi le paradoxe de Venise, c'est que ce mauvais goût universel que l'on voit, mais qu'on peut refuser de voir, finalement rehausse finalement, la beauté de Venise ne s'en trouve absolument pas ternie. Et moi, je pense aussi voyager, c'est aussi avoir une certaine dose, comment dire, d'aveuglement. Une forme d'illusion. Il y a des choses qu'il ne faut pas voir, qu'il ne faut pas regarder. Et moi, je suis resté pendant plusieurs mois à Venise. Et toute cette exhibition, toute cette vulgarité, je ne l'ai pas vue.
Oui, il y a même une guide française qui parle de viol collectif à propos de l'invasion touristique à Venise. Et donc, Jean-Paul Kaufmann, téméraire ou présomptueux ou inconscient, comme vous dites, vous vous lancez le défi de raconter ce qui n'a jamais été écrit. Votre sujet, c'est le mystère et l'oubli des églises fermées. De cette Venise à double tour, c'est le titre de votre récit. Combien sont-elles, ces églises fermées?
Autour de 40 à 50, 49. Alors, il y en a qui ferment. Mm. Par exemple, il y a une église dont je parle beaucoup dans mon livre, qui est l'église San Lio. Eh bien, elle a fermé. Le prêtre était âgé. Et puis bon, il n'y a personne pour le remplacer. C'est pour ça aussi que les églises ferment.
Certaines sont en ruine aussi. Oui,
certaines sont en ruine, mais quand même entretenues. Et c'est ça aussi qui est assez émouvant. Bon, ce livre, en effet, est né d'un souvenir que j'avais dans la tête, un tableau entrevu lors de mon premier voyage à la fin des années 60, et puis aussi cette constatation que n'importe qui peut éprouver lorsqu'il est à Venise, c'est de voir toutes ces églises fermées. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est très désappointant. Quand je suis arrivé à Venise, je me suis dit, je vais me faire ouvrir toutes ces églises fermées. Mais je ne mesurais pas la difficulté que ça représentait. Ça a été un véritable sport. D'abord, il fallait savoir pourquoi elles étaient fermées et surtout, qui détenait les clés de ces églises.
Qui pouvait tourner la serrure
exactement
de ces portes?
C'est elles sont fermées
quête
à double tour.
Fascinante et merveilleuse, Jean-Paul Kaufmann. Il faut préciser le point de départ. Vous connaissez donc Venise depuis 50 ans, vous y êtes revenu souvent, vous en avez exploré toutes les églises ouvertes au public, mais il y a donc cette image qui vous obsède, qui date de votre première visite en 68 ou 69, une image obstruée, dites-vous. Quel est ce souvenir? Vous l'avez dit rapidement, c'est une...
C'est un tableau qui miroite, une impression qui est relativement fugitive. Et puis, vous voyez, ça arrive à tout le monde. Vous revenez dans une ville, vous dites, tiens, j'aimerais bien revoir cette impression, ce souvenir. Et puis, vous n'arrivez pas à l'identifier. Et je n'arrivais pas à retrouver ce souvenir étrange, ce souvenir disparu. Donc, ce livre aussi est construit comme une sorte d'enquête policière. Et je connais à peu près toutes, je les connais toutes, je les ai épuisées, toutes ces églises ouvertes. Je me suis dit, ce souvenir ne peut être que dans une église fermée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de me faire ouvrir ces églises. Et encore une fois, ça n'a pas été très facile.
Il faut dire aussi, Jean-Paul Kaufmann, que cette image, l'image de ce mur dans la pénombre et de la peinture qui l'illumine, a pu surgir lors des exercices de mémoire auxquels vous êtes astreint pendant votre interminable détention au Liban, exercices qui vous ont sauvé. C'est aussi pour ça que cette image est devenue obsédante.
Oui, écoutez, moi, quand j'étais au Liban, en effet, il fallait utiliser le temps, 3 années. J'ai remémoré toute ma vie passée et les images de Venise, cette impression, ce miroitement là dans l'obscurité, j'arrivais pas à le saisir. C'est de cette façon-là que cette histoire a commencé.
Votre passage à la trappe, comme vous dites, oui, c'est une expression que vous employez souvent, vous ramène à des portes et à des serrures.
Là, il s'agit de me faire ouvrir, et c'est là toute la différence, des églises de l'extérieur. Je ne suis pas enfermé dans ces églises. Ouais. J'aurais aimé m'y faire enfermer, d'ailleurs, dans certains cas. Mais là, il s'agit du dehors. Il s'agit de me les faire ouvrir du dehors, de l'extérieur. Parce que je suis un homme libre, ouais, et parce que je l'ai choisi. Vous voyez, c'est ça aussi toute la différence. Mais il est certain que la fermeture m'obsède. Moi, j'ai un gros problème avec l'espace. J'habite les Landes, c'est pas non plus un hasard. Donc, vous voyez, j'affronte perpétuellement ce problème de l'enfermement, le problème de l'espace, et puis le trou de serrure aussi, parce que qu'est-ce que fait le prisonnier enfin, quand il n'est pas enchaîné, c'est de regarder par le trou de la serrure, hein, essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté. Et il y a un côté voyeur aussi dans cette histoire.
Et de l'autre côté de la porte, parfois, des endroits absolument stupéfiants, improbables. Une fois, ça ressemble à une prison. Vous parlez de l'odeur du confinement. C'est quoi l'odeur de la, de la prison ?
Ben oui, l'odeur de la prison, l'odeur de l'enfermement, c'est tout à fait particulier et c'est quelque chose, moi, que j'arrive très vite à identifier. Et dans ces églises, vous voyez, c'est des lieux qui sont fermés depuis il y a des églises, hein, il faut le dire, qui sont fermées depuis un siècle. Alors, imaginez le saisissement que vous avez lorsque vous ouvrez, lorsqu'on vous ouvre ces portes. C'est une impression absolument unique.
C'est l'odeur du salpêtre.
Alors, il y a l'odeur de l'humidité, l'odeur de salpêtre, l'odeur, en effet, de confinement, d'un lieu qui n'est pas aéré. C'est tout à fait... Moi, j'ai essayé aussi, je suis très sensible aux odeurs, j'ai essayé de décrire les odeurs de ces différentes églises. C'est difficile, mais je les identifie parce que, en effet, c'est une odeur de privation, une odeur de privation, de liberté.
Une fois, c'est quasiment la mort. Il y a une église très, très abîmée, Sant'Anna, je crois.
Oui, c'est ça.
Que
exactement.
Vous décrivez comme on décrit un cadavre.
Ah oui, j'ai vu la mort en face. Et ça, c'est une impression tout à fait particulière. Une église, je n'ai pas pu pénétrer à l'intérieur, mais j'ai pu entrevoir, j'ai vu très clairement une église qui est désossée, littéralement. Et c'est vraiment, ça vous met face à quelque chose qui est la mort en face que vous regardez, que vous contemplez, qui vous méduse, hein, vous voyez ? Mais vous trouvez aussi des choses que vous ne cherchez pas. Et c'est ça aussi l'intérêt. Il y a notamment à Venise un lieu absolument extraordinaire que personne ne visite. Il n'entrait absolument pas dans mes attributions, en quelque sorte. C'est le jardin d'Éden. Ouais. C'est le plus grand jardin de Venise. Personne ne peut pénétrer à l'intérieur. Et j'ai eu un pot énorme. J'ai eu la possibilité de le visiter. Et c'est vrai qu'il en valait la peine. Ce qu'on appelle la sérendipidité. Hein, c'est un mot d'origine anglaise. C'est trouver ce qu'on ne cherche pas. Et j'étais mis en face à cette histoire-là aussi de sérendipidité.
Il faut laisser au lecteur le plaisir de vous accompagner dans cette quête, Jean-Paul Kaufmann. Le plaisir du dénouement aussi, qu'il ne faut surtout pas... révéler,
non, il faut pas révéler
de ces lieux, de ces objets, de ces lieux que vous trouvez sans les chercher. Habiter Venise, c'était un rêve.
Ah oui, vous voyez, la course du temps s'accélère, donc je ne veux pas dire qu'on est à l'heure des bilans, mais bon, il fallait, je me disais, bon, il faut réaliser les rêves que tu avais, et bon, habiter Venise pendant plusieurs mois, c'était un rêve que j'ai réalisé, bon, ben maintenant,
C'est fait. Mais vous y retournerez quand même, à Venise ?
Ah oui, bien sûr, mais oui, c'est une habitude, bien sûr. Oui, je ne veux pas dire que c'est nécessaire à mon existence, mais c'est vrai que ça, il y a pas. Pour moi, c'est la seule ville au monde où l'histoire vous saisisse à ce point et vous saisisse à ce point par rapport à votre propre histoire à vous. Alors, c'est peut-être difficile à expliquer. J'ai écrit un livre pour tenter de faire, mais c'est ça aussi Venise. On vient contempler aussi ce que l'on a été. Mais moi, je suis absolument pas dans le. Vous savez, dans cette conception de Venise, la décadence, la fin, pas du tout. Pour moi, c'est tout à fait le contraire. Venise, c'est la jouvence, c'est l'alacrité, c'est la joie. Parce que ce livre aussi est parcouru, je l'espère, par une forme de joie, de gaieté. Et quand on est à Venise, on est euphorique.
C'est une quête merveilleuse, vraiment. Venise à double tour, Jean-Paul Kaufmann. C'est votre nouveau livre, comment dire, récit.
Ah oui, c'est un récit, c'est absolument pas un roman.
Je ne suis pas un romancier, dites-vous.
Non, jamais. Tout ce que je raconte a eu lieu.
Aux éditions des Équateurs. Merci infiniment, Jean-Paul Kaufmann.
Merci.
Europe 1.
Et dans un instant, un jeune acteur de 29 ans qui accumule les têtes d'affiche, François Civil. 4 films en quelques mois, c'est l'année civile.
Europe 1. Vous écoutez C'est arrivé demain avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour François Civil.
Bonjour.
Il vous arrive un truc pas banal, jeune acteur, vous êtes l'une des têtes d'affiche de 2 films importants sortis il y a une semaine d'intervalle. Le Chant du Loup d'Antonin Baudry, cette semaine où vous êtes l'oreille d'or d'un sous-marin nucléaire, on en a parlé avec le réalisateur. Et puis, mercredi prochain, Celle que vous croyez de Safi Nebbou avec Juliette Binoche et Nicole Garcia, c'est votre moment ?
J'espère qu'il y aura d'autres moments.
Il y en aura d'autres, oui.
Mais en tout cas, je suis conscient qu'il se passe quelque chose de particulier. Quoi. C'est rare d'avoir deux films et il y en a un en plus de Hugo Gélin qui arrive pas loin derrière, donc qui sortent dans une fenêtre aussi resserrée. Mais voilà, je profite.
Enfin, c'est un nouveau moment. Il y a 10 ans déjà, vous étiez présélectionné pour le César du meilleur espoir masculin après le film de Laurence Ferreira-Barbosa, Soit je meurs, soit je vais mieux. En fait, vous avez combien d'années de carrière, François Civil ?
Le calcul exact, moi je ne suis pas fort en mathématiques, mais mon premier truc c'était 2004. Et là, on est en 2019.
Donc vous aviez 14 ans ?
Ouais, donc 15 ans, ouais.
Ouais.
Donc la moitié de ma vie en fait, finalement.
15 ans, film, téléfilm, série ?
Ouais, un peu tout, quoi, droite à gauche.
Donc vous n'êtes plus impressionné de rien ?
Au contraire, chaque nouveau projet, j'ai l'impression d'être un débutant total.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous impressionne ?
En fait, déjà, chaque nouveau projet, c'est un nouveau réalisateur, à part quand on a la chance de retravailler avec Cédric, et donc là, du coup, c'est un peu raccourci. Quoi.
Cédric Lapiche.
Cédric Lapiche, ouais, pardon. Du coup, on s'adapte à un projet, à un rôle, à un réalisateur. Et en plus, j'essaye de faire des choix aussi de films et de genres différents, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est insurmontable, donc je me sens tout neuf. Quoi.
Et le fait d'approcher aussi, de côtoyer et de travailler avec des gens, des acteurs que vous admirez. Là, en l'occurrence, Kassovitz, Reda Kateh, Beaumarcy dans le film d'Antonin Baudry, ouais. Et Juliette Binoche. Admiration ?
Admiration totale pour tous les noms qui ont été cités. Là, c'est vrai que la fournée à mes côtés, elle est quand même assez balèze. Non, mais j'en reviens pas. Hein, de temps en temps, je suis sur le plateau et on est entre deux prises et je vois que Juliette Binoche est juste à côté, qu'on partage un café et je dézoome un petit peu, oui, sur ce qui se passe et je suis comme un gosse. Quoi.
Vous faites plus que partager un café dans le film dont on,
oui,
va parler.
Oui, en effet.
15 ans de métier, François Civil, d'un métier que vous avez appris tout seul.
Non, pas tout seul, mais en tout cas pas
tout seul,
pas
sans,
trop,
sans formation de,
sur les plateaux,
de cours ou de conservatoire.
Ouais, mais par contre, c'est vraiment en observant les gens au travail sur les plateaux de cinéma, donc... J'aurais pas les prétentions de dire que je l'ai appris seul vraiment.
Mais ça
retour.
Change quoi ? J'imagine que vous vous êtes posé la question, par exemple, au contact de Pierre Ninet, qui lui a fait le cours Florent et le conservatoire avant la Comédie française.
On le disait juste avant, moi j'ai commencé jeune et j'ai été prénommé jeune et je me suis dit un peu que voilà, et c'est peut-être que quelque chose était lancé. Et ensuite j'ai eu des vraies années où il se passait quasiment rien. Et la rencontre avec Pierre Ninet et Igor Gottesman qui a réalisé Five, elle a été un peu décisive, quoi. Elle m'a vraiment redonné. Comme un souffle, quoi, et comme vraiment l'envie de pousser là-dedans. Et on a trouvé un peu une espèce de synergie tous les trois à vouloir créer ensemble. Ouais.
Alors, Le Chant du Loup et Celle que vous croyez. Il y a un point commun entre les deux films. Je ne sais pas si vous voyez lequel.
Les oreilles dans l'un, la voix dans l'autre.
Exactement. Le son. Dans Le Sous-marin, vous êtes l'oreille. Et au téléphone avec Juliette Binoche, vous êtes une voix. Dans les deux cas, vous suggérez l'image avec votre écoute ou avec votre voix.
C'est ça. Là, c'est un parallèle qu'on fait maintenant que les films sortent si proches,
oui,
mais c'est vrai que moi, au moment des tournages, j'y avais pas forcément pensé. Mais en effet, quoi, d'un côté, c'était Louis qui était central et c'était un point de départ incroyable, quoi, pour aborder ce personnage de Chantraide dans le film d'Antonin Baudry. Et là, tout de suite, ce qui m'a marqué au scénario, c'était le fait que pendant 60% du film, je pense, je n'apparais pas, je ne suis qu'une petite voix dans la tête de Juliette Binoche, ce qui n'est pas désagréable.
Une voix, plus qu'une petite voix, une voix chaude, ouais, caressante. C'est comment une voix qui peut séduire Juliette Binoche ?
À vrai dire, ce qui est drôle là-dessus, c'est que Safi Nebbou, le réalisateur, en fait, a voulu qu'on ne se croise pas du tout avec Juliette avant de se croiser vraiment dans l'histoire. Donc on a tourné dans la chronologie. Donc le premier halo qu'on entend dans le film, c'est un peu notre rencontre, elle et moi. Ouais.
Alors on va les écouter, ces premiers mots, justement. Premier coup de fil, premier contact entre celle qui se fait passer pour une jeune fille et celui qui s'est laissé séduire par ce chat, par les réseaux sociaux.
Allô ?
C'est Clara.
Tu m'appelles un numéro masqué ?
Je vérifie que t'es pas un psychopathe.
Je comprends. Ok. Et ça va, j'ai pas la voix de Dexter.
Non.
Ta voix à toi, elle est... C'est bizarre, elle est différente de ce que j'imaginais. T'as une voix... très jeune. T'as quel âge, exactement ? T'es majeur, j'espère. 24 ans, c'est ça?
Presque 25, maintenant.
Juliette Binoche, François Civil.
En fait, ça... c'est vrai qu'il faut, s'imaginer Juliette Binoche, du coup, répondre, et c'est elle qui a l'image et toute l'ironie dramatique de la voir, elle, se faire passer pour une femme plus jeune, du coup, je trouve, développe beaucoup de comédie, en tout cas dans la première partie du film. Ouais.
Donc, à ce moment-là, vous ne vous êtes pas rencontrés?
Non.
Pas du tout?
Alors, il se trouve qu'avec avec Juliette, on avait travaillé ensemble il y a 10 ans. Elle avait joué ma mère dans un film. Donc, on s'était croisés, mais très peu de jours.
Oui, mais pour ce film.
Pour ce film-là, ouais, en effet.
Incroyable. Vous avez travaillé cette voix?
Ouais, c'était important. Enfin, la voix, en effet, de l'avoir posée. Enfin, là, je parle à quelqu'un de radio, donc je sais que c'est quelque chose d'important ici aussi. Mais, fallait trouver le bon timbre. Et au-delà de ça, je pense trouver la bonne évolution dans la relation, parce que c'est du cinéma, donc il y a des ellipses, et leur relation est racontée sur plusieurs mois, mais dans un moment court du film. Donc là, on entend vraiment que voilà, c'est les balbutiements d'une rencontre, et c'est des hésitations, des respirations, des sourires qu'il faut entendre, quoi, qu'il faut voir quasiment. Donc ça, c'était tout l'enjeu. Ouais.
Faire l'acteur, François Civil, c'est d'abord du travail ou de l'instinct?
Bah, je dirais que moi, ça a commencé par de l'instinct. C'était tout à fait... improbable, même que je fasse ça au début. Je me suis inscrit dans un cours de théâtre parce qu'une fille me plaisait bien dedans, et ça n'a pas marché avec elle, mais ça a marché avec le jeu. Et je pense que j'ai toujours eu un truc assez instinctif dans l'approche du texte, des scènes, et j'ai essayé d'insuffler du naturel très tôt. Et c'est que plus tard que je me suis rendu compte que ça suffisait pas, quoi, et que travailler un rôle, c'était y consacrer beaucoup d'espace mental en préparation et d'essayer de trouver des références, des inspirations un peu partout. Ouais.
Bon, et avec Juliette Binoche, la rencontre s'est faite à l'instinct pour l'un et l'autre.
Ouais, en tout cas, elle est une actrice qui travaille beaucoup et qui est très très instinctive, qui arrive sur le plateau, même si elle vient avec une connaissance parfaite du rôle, de l'histoire, et qu'elle est réellement en fusion avec le réalisateur pour le projet. Elle est capable de se libérer de tout ça et de partir dans tous les sens. Enfin, moi, j'ai pris une claque monumentale, quoi, de jouer avec elle.
Celle que vous croyez de Safi Nebbou avec Juliette Binoche, Nicole Garcia et François Civil. Merci beaucoup François Civil.
Merci beaucoup.
D'être venu nous en parler.
Avec plaisir.
Europe 1.
C'était C'est arrivé demain, émission goupillée par Marina Pruzès, réalisée par Sophie Mallier. Je vous retrouve samedi prochain, 9h10 pour C'est arrivé cette semaine.